Cette émission vous est présentée avec la fabuleuse participation de Eric Page, Mister V Acta, Maël, Christophe Chaise, L'Homme Chocolat, Carnet, Mathieu Cruzel, Wim Roro, Seb Le Voisin et V Dante. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Toutes les deux semaines, on s'assoit ensemble, on décortique tout ce qui s'est passé dans ce monde si important de la tech qui influence notre société, nos communications, nos médias, notre politique, notre économie et surtout nos gadgets, la chose la plus importante de tout ça. Donc on vous résume ça, on vous analyse tout ça, on vous aide à comprendre et à savoir, et on l'espère, on vous aide aussi un petit peu à vous distraire pendant une petite heure et demie. Aujourd'hui, pour accomplir l'ensemble de toutes ces tâches ardues, j'ai avec moi le camarade Guillaume Main. Comment vas-tu, camarade ?
Salut Patrick, ça va très bien et toi ?
Bah écoute, ça va, c'est l'été commence à disparaître un petit peu dans notre hémisphère, il commence à faire un petit peu plus frais, donc un tout petit peu de nostalgie, mais en même temps, il y a ce moment de la rentrée, tu sais, où les feuilles commencent à tomber, et puis les enfants reviennent à l'école, je sais pas, il y a une sorte de petite nostalgie de l'époque où moi aussi je devais aller à l'école.
Pour moi, ce serait presque l'inverse, parce que je suis pas encore parti, donc mes vacances sont devant moi et pas derrière moi.
Bah écoute, je pense qu'il y en a pas mal qui t'envient. En même temps, toi, tu étais en train de travailler dans la chaleur pendant tout l'été.
Ouais, exactement.
Donc, c'est bien mérité. Où est-ce que tu vas aller, dis-nous tout.
Je pars une semaine en Norvège, je pars jeudi.
Ah bah écoute, les pays nordiques, moi je ne peux qu'approuver. Donc très bien, tu nous raconteras comment ça s'est passé. Moi j'ai passé un mois en Finlande, comme les auditeurs le savent, en juin. Donc, c'est bien, les gens de la tech se donnent rendez-vous dans le nord.
Ah, je connais un petit peu les pays nordiques. C'est toujours l'Islande, la Norvège ou la Finlande. Donc, pareil, j'adore les pays nordiques.
Non, c'est bien, on fait partie du groupe de représentation scandinavo-nordique de l'organisme du tourisme des pays scandinaves. Bon, très bien, on va quand même plutôt se mettre à parler de la tech, parce que le tourisme c'est bien, mais la tech c'est encore mieux, et on va vous parler de cette étrange nouvelle de Google qui se transforme en alphabet. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Et on va aussi vous parler des annonces de Samsung pour ses nouveaux téléphones Galaxy. Si vous êtes intéressé par des Android haut de gamme, je pense que vous devrez regarder de ce côté-là. Et puis on aura en news et rumeurs tout un tas d'autres news, notamment sur une loi numérique avec une consultation publique, ce qui est une nouveauté en France, et plein d'autres petites choses comme des informations sur le hack d'Ashley Madison, etc., etc. Mais commençons avec cette grosse news de la semaine dernière de Google qui disparaît, qui se transforme en alphabet et auquel, a priori, à peu près personne n'a rien compris. Il y a beaucoup de spéculations. Je pense qu'on sait à peu près ce qui s'est passé. Mais pour résumer la chose, et puis on va vous donner notre avis... Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, Google a annoncé, par la voix de Larry Page, une chose qui était tout à fait inattendue, c'est-à-dire que la société Google allait se renommer et se transformer. Alors, le nouveau nom, en fait, c'est Alphabet. Et il y a sous cette holding qui tient toutes les propriétés que tenait la société Google avant la création d'Alphabet, il y aura donc tout un tas d'autres départements qui seront gérés, en fait, qui seront des sociétés, effectivement, et qui seront gérés de manière complètement indépendante par leur propre président directeur général, leur propre CEO, en fait. Et il y aura au-dessus de tout ça, Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google d'il y a une quinzaine d'années maintenant, qui géreront l'ensemble du truc. Et donc, ils auront en dessous des présidents qui géreront les sociétés individuelles, dont Google sera une des sociétés. Donc, comme ça, de but en blanc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans un instant, mais de but en blanc, Guillaume, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ce changement radical quand même chez Google ? C'est important ? C'est juste un changement de nom ? Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Pour moi, c'était avant tout un gros signal pour les investisseurs. C'est ce qu'on a pu lire énormément un petit peu partout. J'ai eu l'impression presque au début que l'annonce ne m'était pas vraiment destinée, que ça allait rien changer puisque de toute façon Google restait Google, que la totalité des services très proches de Google, la publicité, le moteur de recherche, Google Drive, etc., allaient rester sous la houlette de Google, et de fait, enfin, rien de fondamental n'allait vraiment changer. Donc, moi j'en ai tiré d'abord cette conclusion que c'était pas vraiment une annonce pour les utilisateurs, c'était surtout une annonce centrale pour les investisseurs.
C'est sûr que effectivement, on a un thème récurrent chez tous les analystes et à raison. Pour les utilisateurs finaux, en fait, ça va pas changer grand-chose. Pour résumer, la société Google, nouvellement réorganisée en fait, mais celle qui garde le nom de Google, inclut les propriétés suivantes, bien sûr la recherche, donc le site google.com, mais aussi YouTube, Android, la publicité, les cartes et les apps. Donc en fait, c'est un petit peu tout ce qui est à destination des consommateurs finaux directement et qui a trait avec la recherche, ça reste Google. Donc vraiment, le nom Google va rester celui qui sera présent pour les consommateurs, qui est déjà présent pour les consommateurs aujourd'hui et qui restera à l'avenir. On remarque aussi que c'est en fait, quand on dit tout ce qui est lié plus ou moins loin à la recherche, on inclut aussi tout ce qui est lié de plus ou moins loin à la pub et donc tout ce qui fait de l'argent. En fait, Google garde tout ce qui fait aujourd'hui de l'argent. Tout ça, c'est entièrement sous le nom de Google encore maintenant. Et donc, ça veut dire que les autres sociétés que détient Alphabet, à savoir Calico, qui fait tout ce qu'il y a en lien à la santé. On se souvient de la lentille de contact qui peut calculer la quantité de sucre que la personne a dans le sang, ce genre de produit. On a Google Fiber, qui est la fibre de Google en tant que fournisseur d'accès, qui évidemment ne fait pas d'argent. Google Ventures, qui est de l'investissement d'un certain type. Google Capital, l'investissement d'un autre type. Google X, qui fait tous ces projets un peu fous comme les ballons pour connecter les gens à Internet, etc. Y en a deux, trois autres, mais tous ces produits-là sont des produits qui ne font a priori pas d'argent. Donc, tu parlais d'investisseurs, c'est aussi un moyen de diviser les activités de Google et de dire il y a d'un côté les trucs entre guillemets sérieux et de l'autre les trucs qui sont des essais, des tentatives, de la recherche. On a vu notamment que Boston Dynamics, qui est cette société qui fabriquait des robots, qui a été rachetée par Google, a fait une nouvelle démonstration de son robot humanoïde, qui est là encore tout à fait cauchemardesque. Mais vous vous souvenez de ces robots qui ressemblent à des sortes de... Ah, je veux même pas y penser, mais regardez le robot Atlas, vous verrez que c'est terrifiant, c'est Skynet qui arrive, mais bon, en même temps, il se déplace comme un humain. Bref, c'est pas le sujet. Il y a donc toutes ces activités qui étaient très difficiles à classer, ah oui. quoi. Non, enfin, c'est compliqué pour les investisseurs de se dire pourquoi est-ce que la société Google se met à faire des choses dans la robotique, dans la recherche de science, dans la... Enfin, tout ça, quoi. C'est...
Ouais, enfin, moi, je trouvais ça relativement logique. Je me disais que... Enfin, ce qu'avaient dit Larry Page et Sergey Brin, il me semble, c'était de... Non, ce qu'avaient dit plutôt les observateurs aux États-Unis, c'était qu'à un moment donné, Google allait forcément essayer d'appliquer son modèle. Son modèle, ce qui avait fait que le moteur de recherche avait réussi, à d'autres milieux. Ça rejoint un petit peu le livre de Jeff Jarvis que j'avais lu, qui est comment Google ferait à votre place pour appliquer la méthodologie de Google d'entreprise à tous les domaines, tous les pans de la vie quotidienne. Et on voit là qu'ils sont en train de l'appliquer pratiquement littéralement à eux-mêmes avec les sociétés tierces qui ne sont pas celles du cœur de métier de Google. Et les investisseurs, de toute façon, les investisseurs sont toujours un petit peu frileux. Une offre s'enrichit, dès que la lecture est moins évidente, d'un seul coup, il y a toujours des inquiétudes qui montent. Et ce que j'ai pu lire également comme hypothèse, c'était que ça pouvait donner plus de souplesse au business de Google, puisque chaque projet aurait désormais une chance de réussir sans s'appuyer nécessairement sur la rentabilité du cœur d'activité de Google. C'est-à-dire qu'on allait enfin décorréler, comme on disait tout à l'heure, le moteur de recherche et l'activité de publicité de tout le reste, ce qui fait que tout le reste allait pouvoir prendre son envol indépendamment de leur rentabilité.
Ce qui est aussi un petit peu curieux, parce qu'on peut se dire que comme ces activités-là ne vont a priori pas faire d'argent ou sont des investissements sur le long terme, on se demande comment justement ils vont justifier ça auprès des investisseurs. Aujourd'hui, Sergey Brin et Larry Page ont quand même la main mise sur leur société, ils vont continuer à l'avoir pour l'avenir proche, mais est-ce qu'on peut se dire dans 5 ou 10 ans, est-ce que les investisseurs vont pas commencer à se dire bon, vous êtes gentils avec vos histoires de lentilles de contact magiques qui font des trucs incroyables, mais ça fait pas d'argent. Donc là, il y a une petite interrogation quand même. Mais d'une manière générale, quand on lit le mot de Larry Page, pardon, qui est sur le nouveau site donc de Alphabet, qui est abc.xyz, c'est le nom du site de la société Alphabet, où il n'y a pas grand-chose d'ailleurs en ce moment, mais d'ailleurs il n'y a presque rien. Mais quand on lit ce mot, on se rend compte à quel point la volonté, ou en tout cas la tournure qu'il donne à cette volonté du couple Brin Page, est de s'assurer que Google ne soit pas une société comme les autres. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, ils ont fait référence à leur lettre d'intention d'il y a 11 ans. C'était l'idée que la société ne serait pas une société comme les autres. Et effectivement, on peut se dire que même s'il y a cette idée que Google restera le côté public de l'ensemble de la société, par rapport à d'autres sociétés de la Silicon Valley ou même d'ailleurs, le but d'un fondateur qui est hyper attaché à son bébé, en fait, ça serait difficile pour eux de l'abandonner d'une certaine manière, parce que là, de fait, Brin et Page laissent Google un tout petit peu de côté. Ils le confient d'ailleurs à Sundar Pichai, qui avait un rôle énorme dans la société Google, mais il devient président de l'entité Google. Et entre parenthèses, c'est quelque chose. Je mentionne
de l'entité
régulièrement.
Alphabet. non ?
Non, de l'entité Google, uniquement, bien sûr. Sundar Pichai est président de l'entité Google, donc de la recherche. Voilà. Et je mentionne de temps en temps le fait qu'on a dans la Silicon Valley énormément d'étrangers qui sont dans des positions de force, et souvent beaucoup d'Indiens. Et là, Sundar Pichai, qui est un Indien encore aujourd'hui, devient président de Google. Je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose qui, nous, en France et peut-être même en Europe, est assez inédit. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Des gens issus des minorités, ou même, imaginez un étranger qui devienne président de l'une des plus grosses sociétés que le pays ait créée. C'est assez louable qu'il n'y ait pas de... Enfin bon, c'est important de le mentionner, je trouve. Mais au-delà
après,
de ça...
c'est surtout qu'en France, c'est par défaut extrêmement mal vu. Moi, j'ai un exemple, j'ai Renault, Nissan Renault...
Carlos Ghosn, tu veux dire ?
Voilà.
Oui, mais lui est un Français... bon, effectivement, il est d'origine... il est... Je ne sais plus, c'est hispanique ou...
je ne sais plus, mais pour moi, il n'avait pas la nationalité française.
D'accord. Bon, écoute, peut-être que c'est simplement que ce n'est pas très visible pour moi, alors, mais c'est tellement... important dans la Silicon Valley qu'on en voit partout des Indiens, et je pense que ça, on pourrait bénéficier d'avoir une ouverture d'esprit, parce que justement chez les ingénieurs en France, on a Xavier Niel qui a créé l'école 42 parce qu'il manque d'ingénieurs, et peut-être qu'on ne leur propose pas des conditions assez avantageuses chez les Indiens, justement, qui en produisent beaucoup, pour les faire venir en France. Mais bref, c'est un autre débat. Mais je voulais simplement signaler que c'est Sundar Pichai qui devient président de Google, ce qui est notable. Mais d'une manière générale, Page et Brin qui abandonnent en fait un petit peu Google, qui est le bébé qu'ils ont construit pendant des années. Moi, je fais le parallèle avec une société comme Apple ou comme une société comme Microsoft. Jamais on aurait pu imaginer que Steve Jobs dise « Bon, bah oui, Apple, c'est bien, mais moi, je vais aller faire des trucs à droite et à gauche et je veux faire des choses complètement différentes et donc je vais m'intéresser à autre chose. » Ou de même, Bill Gates qui abandonne Microsoft. Les sociétés vivent leur identité, ils ont une identité extrêmement forte, et on a une philosophie en fait qui est définie pour ces sociétés à la base et qui se répand dans toute la société. Là,
je suis entièrement d'accord, mais pour l'exemple de Steve Jobs par exemple, ça a été quand même tumultueux. Il s'est fait virer de sa propre boîte dans un premier temps.
Ah oui, mais non, mais il en était malade. Pour lui, Apple, c'était sa vie.
Mais ce que je veux dire là, c'est que là, Sergey Brin et Larry Page, ils sont quand même à la tête d'Alphabet. Donc en fait, ils continuent de chapeauter la totalité. La totalité
bien
de l'ensemble.
Sûr. Non, ils ne sont pas allés faire autre chose, c'est sûr. Mais...
Mais je suis d'accord que c'est un signal très fort d'avoir mis Sundar Pichai à cet endroit-là. Et en même temps, là encore, j'en reviens aux investisseurs. Je pense que ça peut les rassurer parce que c'est la personne qui s'occupait, qui supervisait tout ce qui était vraiment en rapport avec le cœur de Google, avec Gmail, Google Docs, Google Drive.
Ah bien sûr, non, mais il était déjà en charge de tout ça. Hein. C'est évident qu'il a juste consolidé le rôle qu'il avait déjà, finalement.
Voilà, mais je pense qu'en plus, mais ça rentre dans une espèce de logique avec la volonté de rassurer les investisseurs. Même si on peut parler de tout ce qu'il y a autour, j'ai vraiment cette sensation, cette tendance de fond que tout a été fait pour les investisseurs. Maintenant, c'est vrai quand même que, c'est très surprenant que Google change de main. Mais j'ai cette sensation que, de toute façon, c'est juste des vases communicants. À partir du moment où et Sergey Brin continuent d'être au-dessus, ils peuvent réorganiser à nouveau comme ils l'entendent, un peu comme à l'époque d'Eric Schmidt, où ils avaient la hiérarchie avait complètement bougé, et puis finalement c'était revenu dans l'état précédent.
D'une certaine manière, je suis assez d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ils gardent la main sur tout ça, mais le fait de ce que ça veut dire, à mon sens aussi, c'est que ils veulent vraiment se concentrer sur ces autres activités, eux. Ils laissent Sundar Pichai s'occuper de Google, et eux, ils veulent faire complètement d'autres choses. Je le comparerais presque à, d'une certaine manière, la façon dont Bill Gates a abandonné Microsoft. Mais lui, il n'a pas transformé Microsoft, il s'est juste mis en arrière et il a été faire son travail caritatif. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même intention pour Brin et Page, sauf qu'ils ne vont pas le faire en dehors de la société, enfin ça sera en dehors de Google, mais ils vont garder la structure, mais ils vont se concentrer sur tous ces projets un peu fous qui voient les choses à beaucoup plus long terme et plus du tout, de fait, moi je pense qu'ils ne vont plus regarder ce qui se passe au quotidien chez Google, quoi. Donc c'est à mon sens une chose qu'on n'a pas vue de cette manière dans ces sociétés-là. Et même Bill Gates qui s'en est éloigné, il a laissé Microsoft dans l'état. Enfin, c'est hyper compliqué. Ça aurait été hyper compliqué de dire. Enfin, moi, j'aurais pas imaginé Bill Gates se réveiller un jour et dire bon, ben maintenant Microsoft s'appelle Bonjour les amis, tu vois.
Oui, oui. Donc, tout à fait. Mais et en fait, ça rejoint également l'idée que les médias, même américains, ont vraiment semblé pris de court par rapport à l'annonce, ce qui peut paraître quand même prodigieux, parce que une société de la taille de Google que tout le monde regarde est parvenue à cacher ça du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'échéance, jusqu'au moment où ils allaient l'annoncer, et tous les médias, même les médias américains les plus technophiles, ne l'ont visiblement pas vu venir, et se sont même exprimés dans ce sens-là en disant que c'était une énorme surprise.
Ouais, tout à fait, tout à fait. On l'avait pas du tout vu venir. Et...
Ah, bon, ce que j'avais pas dit également, ben là ça tient de l'anecdote, mais j'ai beaucoup aimé deux petites anecdotes. C'est d'abord dans l'annonce justement qui a été faite sur le site abc.xyz, bon, il y a un easter egg, c'est-à-dire qu'il y a un petit truc qui est caché dans la page, et en fait il y a des gens qui l'ont immédiatement détecté, probablement en allant voir le code de la page, qui emmène sur une page tierce, et du coup cette page faisait un clin d'œil à la série télévisée Silicon Valley. J'ai trouvé ça très fort, parce que dans l'annonce, aussi sérieuse soit-elle, il y a toujours une petite marque un peu geek, ou une petite marque un peu dans le temps, bien sur terre, les pieds sur terre, cette sensation que on reste proche quand même de... C'est juste le petit truc qui m'a fait dire, tiens, ils ont aussi...
Ça reste Google, quoi.
Voilà, et c'est le petit détail qui était plutôt à l'intention des utilisateurs. Je me suis dit, bon, voilà, c'est... Mm. Et l'autre chose que j'ai remarqué, ayant aussi un petit peu des activités de référenceur, je me suis intéressé au point XYZ. Et alors, ça a été un raz-de-marée. Le fait que Google utilise le point XYZ d'un seul coup pour ce nom de domaine, enfin pour ce site-là, on a vu une explosion du point XYZ. Les demandes hebdomadaires sont passées de 3000 à 30000, voilà, c'est passé de 3000 à 30000 demandes. Le propriétaire, ça lui a fait vraiment une masse de travail. L'annonce était le 13 ou le 14 août. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec 10 à 50 fois plus de travail. Et tous les sites comme la FNIC en ont parlé. Vraiment, le simple fait que Google ait fait abc.xyz a fait que plein de médias se sont demandé si le point .xyz ne devenait pas, avec le consentement de Google, le nouveau .com.
J'irai pas jusque là, mais pardon, fini.
Oui, et je trouve, bon, évidemment, moi aussi, je trouve que c'est exagéré, mais c'est juste la news dans la news où je me suis dit, il suffit que Google bouge le petit doigt sur un truc, il suffit qu'on mette le focus sur autre chose que la news principale pour se rendre compte des raz-de-marées que ça peut provoquer sur des micro-phénomènes. Et c'est ça aussi qui est passionnant avec Google, c'est que toutes les conséquences collatérales sont toujours
hyper importantes, oui.
Voilà, elles sont, voilà,
C'est un petit peu ce qu'on dit souvent, on en parle souvent avec Apple, il est difficile de ne pas faire le parallèle, mais quand Apple s'intéresse à quelque chose, même si ça avait déjà été existant ailleurs, tout de suite, il y a la possibilité de développer ce domaine. Je pense qu'il y a quelques sociétés comme ça, on pense à Apple, Google, Microsoft et bien sûr Facebook, Amazon. C'est toujours le cas, quoi. Quand ils s'intéressent à un domaine, tout de suite d'autres personnes s'y intéressent, donc il y a une vraie force de frappe pour toutes ces sociétés. Écoutez, ça va être notre petit résumé sur Alphabet. Maintenant, c'est Alphabet dont il faudra parler, même si, comme on le disait, d'une manière concrète, c'est plutôt Google qui sera la société publique. On va passer maintenant à Samsung et ses annonces de Galaxy Note 5 et Galaxy... Alors attention, je prends ma respiration. Galaxy S6 Edge Plus. Voilà, c'est le nom de l'autre téléphone. Deux téléphones qui ont été présentés, pas une énorme fanfare non plus, c'était leur nouvelle collection d'été, on va dire. On aura certainement un renouvellement dans quelques mois avec les S7, j'imagine, mais en tout cas pour le moment, c'est leur haut de gamme, ces deux téléphones. On a donc le Note 5 et le S6 Edge Plus. Les deux téléphones font 5,7 pouces, l'écran fait 5,7 pouces, avec bien sûr le S6 Edge Plus qui a son écran courbé, mais des deux côtés, comme le S6 Edge. Et ces deux écrans donc font 5,7 pouces, c'est marrant, ils en ont parlé bien sûr dans la présentation. Ces téléphones sont d'une taille qui est aujourd'hui acceptée comme un petit peu grande, mais normale. Et il y a quelques années, avec les premiers Galaxy Note, on se moquait, et moi le premier, de ces téléphones de taille immense qui étaient inutilisables en tant que téléphone. Et c'est vrai que Samsung a été l'un des premiers à pousser cet énorme format. Aujourd'hui, il y a énormément de ces téléphones, et notamment l'iPhone 6 Plus, qui fait cette taille-là. Donc, les choses évoluent. En même temps, à l'époque, on utilisait peut-être plus le téléphone comme téléphone, donc le mettre à l'oreille, c'était un peu bizarre. Moi, je trouve toujours que c'est un peu trop grand, mais il y a énormément de temps qui sont fans de gens qui sont fans de ce format. Et donc, ils font tous les deux la même taille. La différence principale entre le Note et le S6 Edge Plus, c'est que le Note utilise le stylet de Samsung, le fameux S Pen, pour pouvoir écrire sur l'écran. Et il a aussi un clavier, en fait une couverture clavier, c'est-à-dire qu'on peut placer le clavier physique sur l'écran et taper au clavier. Pour les inconditionnels de ce type d'appareil, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous. Il y a quelques nouveautés qui sont, il n'y a pas de truc invraisemblable, mais il y a une nouveauté par exemple qui est vraiment pas mal avec le Note 5, c'est qu'on peut écrire sur l'écran quand il est verrouillé et ça sauvegarde une note. J'ai trouvé ça vraiment très malin, c'est-à-dire que si on a besoin de prendre une note comme ça rapidement, on peut sortir le téléphone, le laisser verrouiller, on n'a pas besoin de le déverrouiller, on commence à écrire dessus et ça sauve la note. Ça, j'ai vraiment trouvé ça malin. Pour le S6 Edge Plus, il y a donc, comme je le disais, l'écran courbé des deux côtés. Il est plus petit que l'iPhone 6 Plus parce que le bord est plus fin. Il a une excellente caméra, la meilleure caméra du monde selon Samsung, ça il faudra attendre les tests, avec stabilisation optique, et il peut se charger sans fil entièrement en 2 heures. Donc là aussi c'est pas mal, le chargement sans fil qui est là hyper rapide. On a également la confirmation de Samsung Pay, qui est ce système de paiement qui est non seulement en NFC, donc sans fil, mais qui fonctionne aussi avec le système de bande magnétique. Donc c'est surtout important aux États-Unis, d'ailleurs c'est surtout aux États-Unis qui sera disponible. Les téléphones sortent le 21 août aux États-Unis et le Samsung Pay arrive le 28 septembre aux États-Unis, mais c'est très intéressant pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de changer les terminaux de paiement, ils simulent le passage de la bande magnétique. Donc ça, c'est pas mal pour ces téléphones-là. Et puis voilà, donc c'est quand même des téléphones qui restent chers. Le Note 5 coûte à peu près $740 aux États-Unis. Le S6 Edge Plus, il coûte plus de $800. Là, on est avec 32 gigas de stockage. Et ils ont, comme les S6, ils n'ont pas de batterie interchangeable et pas de port pour une carte SD. Donc, c'est déjà une critique que les fans d'Android avaient fait à Samsung pour la génération précédente, enfin les S6. C'est qu'ils avaient abandonné cet avantage qu'il avait, selon certains, à d'autres téléphones, notamment du côté d'Apple. Mais bon, voilà, on a une batterie qui est aujourd'hui suffisamment bonne et puis un rechargement suffisamment bon pour peut-être pouvoir abandonner ça. Et le stockage dans le cloud qui s'est démocratisé, donc son les arguments avancés, moi je les trouve plutôt valides, mais il y a certains qui sont pas hyper convaincus. Bon, j'ai fait un long monologue sur ces appareils. Une analyse rapide, Guillaume, de ces annonces.
Alors moi je pense que je fais partie de la cible parce qu'en fait j'ai un Note 3 et j'ai eu le Note 4 en main et j'adore ce type de téléphone. Donc le Note 5, je m'y suis immédiatement intéressé. Bon, la première douche froide, c'est qu'en fait, Samsung aurait annoncé qu'il y avait très peu de chances qu'il soit distribué en Europe. C'est-à-dire que Samsung veut à tout prix faire le pari du S6 Edge Plus en Europe, au détriment du Note 5, qui a priori ne serait jamais distribué en Europe. Donc ça, bon, c'est une déception. Ensuite, le S6 Edge Plus m'intéresse, enfin personnellement m'intéresse un petit peu moins. J'étais vraiment focalisé sur le Note 5. L'absence de port micro SD card, il est sur les deux téléphones, il est également sur le Note 5. Je trouve ça vraiment vraiment handicapant, parce que là sur mon Note 3 j'ai bien un port micro SD card et je trouve ça je pense pas que je pourrais m'en passer.
Mais à l'heure du cloud et de Dropbox et de tous ces services, on s'en sert pour quoi une carte SD en fait?
Alors moi jusque là c'était pour je stocke vraiment une quantité très importante de photos et une collection de MP3 assez importante. Effectivement, utilisant Spotify, je vais avoir de moins en moins besoin de stocker mes MP3 et en même temps, tant que on est encore sur je vais parler des forfaits, tant qu'on est encore sur de la data avec une très faible, on est encore sur des 5 gigas
ouais,
par
2,
mois.
2, 3, 5 gigas, ouais.
Avec un record à 9 gigas, mais avec des forfaits beaucoup plus élevés, eh bien, j'ai cette sensation que le port micro SD card, c'est quand même un confort. Maintenant, bon, peut-être que à force, on finit par s'y faire. Ce que j'apprécie, donc c'est toujours pareil, c'est la tranche, l'esthétique. C'est aussi les nouvelles fonctionnalités. En fait, ce que j'ai constaté avec les anciens notes, c'est que le stylet, j'avais tendance à extrêmement peu l'utiliser. Et je me dis que ce que tu soulignais, c'est la possibilité de prendre des notes sur l'écran, mais même lorsque l'écran
est verrouillé,
voilà. Et ça, je me suis dit, instinctivement, pour moi, ça me parle parce que je pense que j'ai pas envie d'allumer mon téléphone, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans mon téléphone puis de lancer
c'est
l'application.
Super pratique, ouais.
Là, je sors le stylet, j'ai juste un bouton à appuyer et immédiatement je peux prendre ma note. Ça me parle, je trouve ça très malin. Et l'autre chose également, c'est peut-être un détail que t'as pas signalé, il me semble, c'est qu'ils vont mettre en natif une fonctionnalité live stream qui permettra de filmer directement à partir de l'application photo. On pourra filmer en 1080p avec une retransmission en direct immédiatement vers YouTube.
Ouais, je l'ai pas mentionné.
Ça, je trouve ça bien également. Alors, il y a plein d'applications qui le font déjà, mais le fait que ça soit natif,
ça peut être pratique, c'est sûr.
Voilà, ouais. me convient bien parce que, en fait, il y a encore je dirais 4-5 ans, disons deux, si on revenait deux générations, disons trois générations en arrière, on avait, il y avait quand même cette sensation que les applications Samsung sont un peu mal finies, ne fonctionnent pas de manière vraiment convaincante. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus du tout vrai. Bon, on peut encore avoir des problèmes avec Samsung Kies qui sert à avoir une correspondance entre un téléphone PC, enfin entre un PC et un téléphone. Mais il y a plein d'autres choses qui. J'ai essayé récemment SiteSync. C'est une espèce de VPN entre un ordinateur et le téléphone. Ça marche, mais avec une fluidité incroyable. J'ai même pu jouer à Hearthstone directement sur mon ordinateur avec le jeu sur mon téléphone. J'aurais pas cru que ça
D'accord.
pouvait être à ce point fluide et efficace. Et.
Bon, ce type de technologie streaming locale commence à être répandu, effectivement, mais c'est pas mal que Samsung les... Disons que là, ils commencent à intégrer des logiciels supplémentaires qui sont bien foutus, ce qui est une
Exactement, voilà.
nouveauté, quoi.
Oui, voilà,
Ouais,
c'est ça en fait. Il y a également le multitasking qui est vraiment très bien fait. Lorsqu'on passe sur un autre téléphone Android, le multitasking, soit il est absent, soit il est. Moi, soit je trouve qu'il n'est pas aussi bien fait. Et puis, je pensais également, on le mentionne assez rarement, mais il y a un assistant vocal Samsung. On l'appelle en disant Salut Galaxy. Et il est extrêmement satisfaisant. En fait, je le mets rarement à défaut. Et tout ce qu'il ne fait pas, Google Now le fait. Donc du coup, on a cette espèce de. Alors évidemment, faut peut-être switcher d'un assistant à un autre, mais l'assistant vocal de Samsung, il est vraiment d'excellente qualité.
D'accord, bah c'est un bon testimonial sur Samsung. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'on a tendance à ne pas. Les résultats de Samsung sont malheureusement pas aussi bons qu'on aurait pu l'espérer. Et c'est dommage parce que leurs téléphones aujourd'hui, je pense ils avaient déjà des téléphones qui étaient bons avant. Et là, ils ont vraiment pris la direction du soin dans leurs appareils, donc c'est bon de le signaler aussi. Il y a une opération aux États-Unis que j'adorerais essayer. C'est Samsung qui offre aux utilisateurs d'iPhone un essai de 30 jours du dernier Galaxy. Et ça serait, moi je serais vraiment intéressé de l'essayer. Et je ne sais pas s'ils vont l'amener en Europe, mais peut-être qu'il faut essayer de faire du lobbying auprès de Samsung France pour qu'ils amènent
Ah oui.
le Galaxy Note 5 d'une part et ce programme d'essai de
C'est
30 jours.
agressif, hein. C'est agressif comme
Ouais.
programme.
Ben c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Ils font d'excellents téléphones sur le marché Android. Ils sont du haut de gamme Android comme on n'en trouve pas vraiment chez les autres constructeurs. C'est exactement la cible des gens qui pourraient être intéressés.
Tout à
C'est
fait.
évidemment, c'est pas tous les utilisateurs d'iPhone, mais il y en a peut-être qui vont être intéressés
Mais j'ai fait,
par la chose.
enfin, je vais pas en faire une généralité, mais j'ai un ami qui a essayé de passer du S5 au Note 4, il me semble, enfin
Du 5S, tu veux
du
dire.
iPhone 5S, oui,
C'est ça. On s'y perd.
voilà, du iPhone 5S au Note 5, enfin au Galaxy Note 5, il a tenu 48 heures, ça a été trop violent pour lui, quoi. Donc, manifestement, les écosystèmes sont quand même très différents, et quand
C'est sûr.
on commence à avoir 7-8 ans d'habitude sur un OS et sur un écosystème, c'est un petit peu. Le dernier
Ouais,
truc
c'est
que je voulais
compliqué de
dire,
faire la bascule, ouais.
je voulais juste souligner ce que tu avais déjà dit, c'est le wireless chargeur, là, le truc qui
Le
permet de
chargement sans
charger,
fil, ouais.
voilà, le chargement sans fil. En fait, moi, ça me fascine. Enfin, technologiquement, ça me fascine. Je trouve ça génial, et en plus, un chargement en 2 heures, je trouve ça vraiment qu'on en soit arrivé là. Alors évidemment, il me semble qu'il y a des recherches avec enfin le milliard, enfin le milliardaire Elon Musk là, qui parviendrait à recharger des téléphones en l'espace de 10 à 30 secondes.
Oui, ça, j'y crois pas trop. Hein. Il y a
Ah,
des domaines de recherche fondamentales, effectivement, qui fonctionnent dans un labo, mais
ah oui, voilà,
oui.
c'est le ouais. Puis avec tous les dangers sur l'être humain que ça peut engendrer également par rapport aux ondes ou des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, un chargement sans fil en 2 heures, en plus, c'est quelque chose que j'attends. J'espérais qu'avec le Note 3, ça soit déjà le cas, mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant.
Et puis ces chargements complets, on peut imaginer ce que ça peut donner en je sais pas, une demi-heure, ça doit déjà recharger à 80%, je sais pas, mais...
Voilà, exactement.
Très bien, et eh ben écoute, merci pour ce témoignage d'utilisateur de Galaxy. C'est tout pour nos news principales. On va passer à la section news et rumeurs, news rapide et rumeurs. Mais avant ça, je voudrais vous parler de mes personnes préférées dans le monde. Bon, il y a ma famille, ma femme, tout ça. Et juste après, mais juste derrière, il y a les gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Les patriotes qui vont sur patreon.com/rdvtech. Et je vais vous donner le nom de quelques-uns d'entre eux aujourd'hui, à savoir Gentle Droid, Pierre-Yves Renaud, Baxmi, Tweetboy avec un OU, Neville, Jérémy Mallier, Frédéric Angelis, Albert Birkicht, Mesa Droid, c'est des noms compliqués aujourd'hui, et enfin Gizmo38. Merci à vous tous et à tous les autres qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech. Merci à vous de faire en sorte que cette émission peut exister, que cette émission peut continuer à exister. Merci à vous tous de faire en sorte que tous les autres qui ne participent pas au financement de l'émission peuvent aussi écouter cette émission toutes les deux semaines. Merci enfin de réussir à me faire manger, puisque c'est grâce à vous que je peux manger aujourd'hui. Voilà, merci à vous tous de participer au Patreon. J'ai envers vous une reconnaissance éternelle et je ne le dis jamais assez. On continue avec les news et les rumeurs. La première news, c'est que la fameuse loi sur le numérique va enfin arriver, va enfin être mise en place avec une innovation dans la législation française. À ma connaissance, ça n'a pas été fait avant. Il va y avoir une consultation publique qui sera mise en ligne au mois de septembre. C'est-à-dire que cette loi sur le numérique couvre énormément de domaines et n'importe qui pourra venir sur le site où il sera implémenté et laisser des commentaires sur la chose, dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'ils en pensent. Alors, évidemment, je pense qu'il y aura énormément de trolls et de gens dont les commentaires devront être mis de côté, mais il y aura aussi des choses, des commentaires qui seront, j'espère, précieux et que les gens qui vont implémenter la chose écouteront. La loi va couvrir énormément de choses. Il y aura des encouragements pour faire plus d'open de données publiques, d'open data sur le gouvernement. Donc, en fait, les activités du gouvernement étant en quelque sorte la propriété des citoyens, les données qui ressortent de ces activités peuvent être mises à disposition du public pour créer des services intéressants et innovants. Ça, c'est quelque chose qui se fait souvent, d'ailleurs déjà en France, mais ça va être accéléré et ça se fait ailleurs évidemment. Il y a des dispositions par rapport aux sites qui mettent l'avis des internautes. Et il y a c'est un petit peu le Wild West, c'est un petit peu la ruée vers l'or, et c'est un petit peu le foutoir, pour rester poli. Tous ces sites comme Yelp, TripAdvisor, etc. Il va y avoir des dispositions, un cadre légal peut-être, pour ce type de site, pour qu'on soit sûr que quand on va regarder un avis sur un de ces sites, eh ben, on ait une bonne chance de se dire que c'est effectivement un utilisateur qui a laissé ce commentaire. Je ne sais pas comment ça va être géré, et ça ensuite c'est toujours compliqué, la manière dont c'est implémenté, parce que qui va avoir la responsabilité de le faire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le contrôler, toujours un petit peu compliqué, mais bon. Le gouvernement s'y intéresse. Il y aura des dispositions sur le droit à l'oubli des mineurs. On pense tout de suite à au droit à l'oubli tout court par rapport à Google, et on va en parler dans un instant. C'est toujours un petit peu compliqué à gérer, mais il s'y intéresse. Des trucs sur la mort numérique, les sites de réseaux sociaux sur lesquels nos comptes restent après notre mort. Et puis surtout, moi c'est la chose qui m'intéresse le plus, l'accessibilité du net. il y a encore aujourd'hui des endroits en France où on devrait avoir une accessibilité à l'internet haut débit et même très haut débit. Alors très haut débit, j'en parle même pas, c'est pas assez accessible du tout, mais même le haut débit, il faut qu'on ait, à mon sens, j'en parlais au début de l'été, une vraie volonté gouvernementale de l'accès à internet autant d'endroits que possible, et il faut des dispositions pour ça. S'il y a une chose que je retiens dans toute cette loi numérique, c'est que il y aurait a priori cette intention de couvrir plus la France avec l'accès internet, et ça c'est essentiel parce que ça développe la vie dans ces régions, ça développe l'activité économique, ça donne des possibilités aux gens de d'y retourner, et pour moi c'est hyper important quoi.
Comme toi, je suis d'accord avec ce dernier point, c'est très important. Je suis aussi très intéressé par l'open data, parce que je pense que ça également, c'est très porteur de création d'activités économiques également. Après, tu sais, j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes où tu m'avais invité, je vois ça d'un œil mitigé, parce que, enfin, plutôt d'un mauvais œil, parce que à partir du moment où on cherche à encadrer, il s'agit forcément de limiter des libertés. Alors,
tu parles des dispositions suivantes sur les commentaires des internautes, tout ça?
Oui, je pense que le diable se cache dans les détails, et que sous couvert de plein de sujets vraiment passionnants, et je trouve vraiment génial qu'ils fassent une consultation citoyenne, je trouve ça vraiment génial, mais je me dis que ils vont faire passer des choses en catimini, comme ils essayent toujours de faire depuis quelques années, et qu'il va falloir être extrêmement vigilant pour aller voir dans le moindre détail, puisque même un complément dans une phrase d'un texte de loi, ou disons une phrase tout entière, peut remettre en cause tout un pan de la loi. Donc moi je suis très prudent. Je me dis que tout ce qui est annoncé est merveilleux, mais même la partie qui consiste à contrôler un petit peu les avis des utilisateurs sur les sites de consommateurs.
Ouais,
la
théorie est parfaite, mais voilà, ensuite en pratique.
Et en plus, je trouve que c'est de moins en moins paranoïaque, parce que ils nous ont prouvé qu'à tous les coups, il y a un truc qui est vendu avec, et ce truc vendu avec, on essaye à tout prix de le mettre sous le tapis, de dire on va faire comme s'ils allaient rien voir, en espérant que ça passe. Et à tous les coups, ça passe. Donc,
écoute, c'est pour ça que c'est bien qu'il y aura une consultation publique, on va dire.
Voilà, oui, on peut.
Oui, voyons les choses du bon côté. J'essaye, tu sais, j'essaye d'être positif. Mais bon, on verra. On aura au moins la consultation publique, on pourra juger de nous-mêmes. Mais quand tu dis le diable se cache dans les détails, là, c'était même pas vraiment un détail, mais on a sur le droit à l'oubli de Google, dont on parle très souvent dans l'émission, le fait que n'importe qui puisse demander à Google de ne plus faire apparaître des liens dans ses résultats de recherche s'ils estiment qu'ils sont. Qu'ils ne devrait plus apparaître. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on pourrait vouloir faire ça, des raisons légitimes ou pas. Moi, mon souci avec tout ça, ça a toujours été qu'on demande à Google de décider si c'était le cas ou pas. Mais l'Angleterre a ordonné à Google de supprimer des liens sur des articles de journaux qui parlaient du fait que d'autres liens avaient été supprimés. C'est un peu Inception, quoi. C'est le rêve dans le rêve dans le rêve. Et c'est un petit peu préoccupant, à mon sens, parce que là, on atteint les limites de ce système. Mais bon, on en a souvent parlé ici. C'est juste un exemple de plus du fait que est-ce que c'est vraiment judicieux d'avoir ce système ? Moi, je pense qu'il peut être cohérent, mais surtout, est-ce que c'est judicieux de dire à Google, vous décidez de ce qui doit être supprimé ou pas, quoi. La redevance télé en France risque d'être étendue aux ordinateurs en 2016. Alors, ça a été évoqué timidement dans les années précédentes, et même ça a été réfuté. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une sorte de préparation, de communication, de préparation qui est en train de se faire. À mon sens, la redevance télé, enfin, c'est pas vraiment cohérent de l'appliquer aux ordinateurs. Déjà, moi, j'ai une télé et je m'en sers jamais, mais jamais pour regarder la télé. Jamais de la vie, c'est pour regarder Netflix, les consoles et voilà. Et bon, mais je me dis, à la limite, on a dit c'est les télés, donc on va s'en servir. On va dire que voilà, si on a une télé machin, si on a un abonnement télé, je pourrais à la limite comprendre. Et du coup, avec le triple play, tout le monde a l'abonnement télé, mais. Et on peut se dire que quelqu'un pourrait ne pas vouloir l'abonnement télé, pourquoi pas ? Mais là, l'étendre carrément à tous les ordinateurs, c'est l'étendre à toute la population. Et c'est, d'une part, c'est un impôt qui impacte les revenus modestes, parce qu'un impôt que tout le monde paye, donc... Bon, on peut penser à des étudiants, par exemple, qui ont un ordinateur pour le travail et qui n'ont pas forcément envie de payer, je ne sais plus combien c'est, 250 euros ou 215 euros par an. Bon, pour nous, ça peut peut-être aller, mais pour un étudiant, ce n'est pas super sympa. Et puis, je ne sais pas, d'une manière générale, si on dit étendre à tous les ordinateurs, on peut utiliser un ordinateur pour regarder la télé sur Internet, mais on peut utiliser un ordinateur pour tout. Donc, ça veut dire... On étend, parce qu'à la limite, un téléphone portable, on peut regarder la télé aussi, mais on étend la redevance à l'ensemble de la population. Moi, ça me semble injuste. Donc,
c'est le même principe que la taxe copie privée sur les supports de mémoire que tu mets dans un appareil photo ou dans un disque dur. Encore que dans un disque dur, c'est plus discutable de ce qu'on peut faire d'un disque dur. Mais je veux dire, pour un appareil photo, tu te dis, les photos... elles ne vont pas servir. Enfin, quel est le rapport avec la copie privée? Pour moi, il y avait deux façons de voir les choses. Soit on considérait que c'est un service public de première nécessité, comme la sécurité sociale, ou un moyen de financer la culture, et à ce moment-là, au même titre que pour ce genre de service, tous les Français doivent contribuer. Ce qui est déjà le cas théoriquement, puisque la redevance existe déjà. Soit on considère que seuls les téléspectateurs qui se servent du service doivent contribuer. Voilà, pour moi, il y avait seulement ces deux cas-là. Et eux, ils ont utilisé un autre cas, c'est opter pour... ils veulent se baser maintenant sur l'équipement des ménages. Et je trouve ça complètement absurde. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de est-ce que ce service est utilisé ou non, et est-ce que c'est une nécessité de le conserver et donc de le protéger ou non, eh bien non, on prend le problème à l'envers et on dit est-ce que les gens sont équipés pour pouvoir pour pouvoir accéder à ce service? S'ils sont équipés, alors ils doivent payer. Je trouve que c'est complètement pris à l'envers. Et
On pourrait dire que en théorie, si on avait une télé, on pouvait ne jamais regarder les France Télévisions. Et du coup, c'était aussi sur l'équipement.
Oui.
C'est juste que là, c'est un petit peu plus loin encore. C'est un équipement qui pourrait peut-être servir à faire un truc qui ressemble.
Alors moi, par exemple, je regarde un petit peu les chaînes de télévision, mais c'est extrêmement peu, c'est de l'ordre de 2 heures par semaine. Parce qu'il y a certaines émissions, alors justement, c'est là où je voulais en venir.
Mais est-ce que tu regardes France Télévisions, justement?
Alors, il se trouve que oui.
Tu serais prêt à payer la redevance, quoi.
Alors, ce que j'allais dire, c'est que je suis prêt à payer la redevance si les émissions de qualité arrivent en masse sur la chaîne. Mais ça, à la limite, la qualité, c'est quelque chose... de relativement subjectif, on va jamais être d'accord sur ce qui est de la qualité. Et puis je trouve qu'il y a quand même déjà un certain nombre d'émissions de bonne qualité, je pense en particulier à Cache Investigation ou des choses comme ça, où il y a vraiment un très gros effort de fait sur la manière de faire un magazine culturel ou un magazine d'enquête. Et surtout, ce que je me disais, c'est que si ils se mettaient à faire une redevance généralisée, à ce moment-là, moi, ce que je trouve vraiment logique et incontournable, c'est de diffuser gratuitement en streaming live absolument toutes les chaînes de France Télévisions sur Internet.
Et sans pub, tu veux dire, ou elles sont pas diffusées aujourd'hui?
Non, elles le sont pas. Alors je suis pas spécialiste parce que j'ai pas non plus beaucoup cherché, mais elles ne le sont pas. Il y a la Catch Up TV, donc on peut toujours récupérer une émission, mais c'est limité à 2 semaines, ça, par exemple. Pendant 2 semaines, regarder une émission qui est passée, mais il n'y a pas de retransmission en direct, streaming live. Je pense que il y a une chaîne de télévision qui le fait,
Mais ça m'étonne ce que tu me dis, parce que je pensais vraiment qu'il y avait la diffusion. Enfin, ça me surprend énormément. Si, regarder France 2 en direct, voilà, là je peux regarder France 2. Si, si, on peut.
Immédiatement, tu peux faire...
Ah bah écoute, oui, moi je suis sur le site là, ça me dit regarder France 2 en direct. Donc, voilà,
très bien.
Là
alors,
je suis...
Non, c'est...
Bon, il y a ça... des pubs, mais...
Ouais, mais alors j'avoue, ok, c'est...
Ça me donne toujours pas envie de payer, hein, mais
moi,
quand même.
Je trouve juste que ça fait partie de la cohérence, de... Ouais. Ça rentre dans la logique, et je me dis que c'est au moins un point cohérent avec le reste.
Ouais, on est d'accord. Moi, c'est bon. Ensuite, c'est effectivement. Et il y a une petite pub de 17 minutes. C'était pas non plus insupportable. Pardon, de 17 secondes. Excusez-moi. Donc, mais par contre, là, la vidéo est bloquée. Donc, je sais pas si c'est chez moi, mais bon.
Moi, il me semble avoir testé et on a d'être arrivé à la conclusion que il y avait peut-être que France 2 ou France 3, qu'il y avait pas France 5, France 4 et tout le reste, d'une part, et que d'autre part, c'était très mal fichu, que ça marchait mal. Mais et j'en étais peut-être arrivé à la conclusion que ça existait plus. Ouais. Mais
c'est possible. Mais bon, bref, voilà pour la redevance. On a fait un petit peu long dessus. On va continuer avec la possibilité d'avoir peut-être bientôt des tests de voitures autonomes sur les routes de France. Il y a une loi sur la transition énergétique qui pourrait mettre en place une disposition qui rendrait ça possible. Donc voilà, on ne fait pas que des choses bêtes non plus. Je voulais mentionner rapidement Laurence Lessig qui... et entrer dans la course à la Maison Blanche. Laurence Lessig, si vous ne le connaissez pas, c'est un intellectuel économiste qui a été qui est extrêmement actif. Il fait partie des gens qui poussent l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation. Il est l'un des membres fondateurs des Creative Commons. Enfin, il est hyper actif et il s'est lancé dans la course à la Maison Blanche avec quelque chose d'assez intéressant. C'est un président, il voudrait être un président référendum. C'est-à-dire que la chose qu'il voudrait réformer, c'est les lobbies, la possibilité d'influencer la politique avec le lobbyisme. Et c'est la seule chose qu'il veut faire. Donc, il se ferait élire, il mettrait en place ses réformes et puis il démissionnerait pour laisser la place à son vice-président. C'est quelque chose d'innovant, d'intéressant et surtout qu'il veut lancer la chose avec du crowdfunding. Alors, il n'y est pas encore. C'est d'ailleurs, tiens, il faut que je regarde, mais la dernière fois que j'ai regardé, il n'y était pas encore et il avait besoin seulement $1 million et ça m'attriste un peu parce qu'il avait besoin $1 million et... il y était, alors qu'on a des projets de jeux vidéo qui atteignent des millions et des millions en quelques jours, là, il n'y était pas encore après genre 2-3 semaines. Mais bon, bref, c'est une initiative intéressante que je voulais évoquer. Tu m'interromps hein, s'il y a des choses que tu veux dire, bien sûr.
Oui, je voulais saluer la beauté du geste, quoi. C'était vraiment... Ouais. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, l'idée, moi, c'est surtout la méthode, quoi, de se dire « je suis élu, je fais voter une loi et je pars ». Je trouvais cette idée géniale. Je me suis dit « ça peut en convaincre plein, parce qu'il n'y a pas cette volonté de vouloir à tout prix s'enraciner avec le pouvoir ». Et en même temps, la perspective de réussir, moi je suis assez pessimiste, mais je trouve ça génial de tenter le coup, et puis effectivement, faudra voir si le projet crowdfunding avance.
Ils ont 5000 donateurs, ils sont à $500,000 et ils ont 15 jours qui restent. J'espère que ça va marcher.
Ah, ça peut se faire, oui.
Ça peut se faire, mais c'est étonnant que ça n'ait pas explosé plus que ça, quoi. Mais bon, et c'est intéressant surtout que ce type qui est économiste, je crois, je me demande même s'il n'est pas prix Nobel, non, peut-être pas, mais il est économiste hyper reconnu et il dit, et un intellectuel hyper vraiment apprécié, et il dit que le problème à résoudre avant de pouvoir résoudre tous les autres, c'est la question du lobbyisme qui bloque tout. Donc voilà, j'avais trouvé ça intéressant.
Et puis, truc important, il est fondateur des Creative Commons.
Ouais, c'est ce que j'ai dit.
Ah, pardon.
mais il fait plein d'autres choses. Hein. Il est membre du board de la Open Free Software Foundation. Enfin, il a plein de choses, quoi. Donc, Bref. On continue avec Windows, on revient du côté obscur de la force. Il y avait une question qui se posait pour les gens qui installaient Windows 10, une question qui était si, comment ça se passe avec mon ordinateur si je veux l'installer et que je veux le réinstaller plus tard. En fait, on a eu la confirmation que l'activation se fait pour chaque appareil. Donc si vous installez Windows 10, par exemple, en mettant à jour Windows 8 sur votre ordinateur, eh bien cet ordinateur est enregistré comme étant activé pour Windows 10. C'est en fait une licence OEM, comme on en avait déjà pour d'autres OS. Et donc, si vous voulez réinstaller Windows 10 sur cet appareil, vous pouvez le faire sans aucun souci. Au pire, vous aurez à activer par téléphone, mais vous pouvez le faire sans aucun souci. Vous pouvez réinstaller à partir de zéro. Si vous changez certains éléments de l'appareil, a priori, si c'est un disque dur, ça va, ça pose pas de problème. Une carte graphique, ça ira aussi. Si c'est la carte mère, c'est considéré comme un autre appareil. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ouais, et Windows 10 en est à 53 millions d'installations il y a quelques jours, donc ça continue à bien aller.
Et sur ce chiffre, ce que je trouvais intéressant, c'était de considérer le fait que Windows 10 a été finalement le meilleur argument en marketing pour l'acceptation de Windows 8.1. En fait, on s'est rendu compte que c'est à partir du moment où les utilisateurs ont eu la confirmation qu'ils pourraient installer Windows 10 en mise à jour à partir de Windows 8.1, que Windows 8.1 a décollé. C'est ce qu'on observait en novembre 2014. Et donc, c'est marrant, du coup, on se dit, bah, c'est l'annonce de Windows 10 qui a fait décoller l'acceptation de Windows 8.1.
Pas mal, effectivement. Entre parenthèses, moi j'ai installé Windows 10 sur mon PC, enfin mon Mac de annexe, donc je crois que je vais faire le saut, tout a l'air de bien marcher, donc si mon PC explose, vous saurez pourquoi. S'il n'y a plus jamais d'émission, vous saurez pourquoi.
Juste une petite remarque sur ceux qui possèdent une carte ATI, de marque AMD ATI, faites attention parce que il me semble, alors j'ai testé avec un copain, il y a une incompatibilité et donc il faut aller chercher des drivers alternatifs, donc faut être préparé à ça, faut s'attendre.
Ah oui. Non, mais pas peut-être certaines cartes ATI, mais
non,
ça
non alors je vais préciser, effectivement, des cartes ATI qui ont plus de 4 ans d'ancienneté.
D'accord. Bon, bah peut-être s'y intéresser si c'est votre cas. Ça me paraît étrange que ça marche pas du tout, mais
ah non, mais c'est précisé dans les guidelines, enfin dans le rapport ATI, c'est précisé que c'est pas compatible en dessous et que c'est pas prévu que ce le soit.
Ah bon, peut-être des cartes très vieilles, mais
cela dit, les drivers beaucoup, alternatifs fonctionnent très bien, donc
oui,
à partir
d'accord.
De là.
Oui, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas avoir les drivers spécifiques ATI, peut-être, mais que les drivers alternatifs fonctionnent. Ouais. Microsoft, donc, il y a aussi une rumeur comme quoi il y aurait un événement en octobre pour lancer le Surface Pro 4 et le Microsoft Band 2. Mais les Surfaces sont des appareils qui ont pas mal de succès et peut-être que là, ça sera intéressant pour certains. C'est vrai que c'est un mix entre tablette et ordinateur qui est sans doute le meilleur mix entre tablette et ordinateur qui soit. Donc, si ça vous intéresse, le Surface Pro 4 arrivera sans doute en octobre et il y aura aussi des nouveaux téléphones Lumia. Donc, le matériel Microsoft sera renouvelé en octobre. Parlons un peu d'Ashley Madison. Vous savez, c'est ce site qui propose aux personnes mariées d'avoir des aventures extra-conjugales. Moi, je me souviens qu'il y a il y a peut-être un an, à la rentrée, il y avait une sorte d'explosion de ces sites-là à Paris, avec des affiches à peu près partout, de la pub, dans le métro, etc. Il y avait Ashley Madison et d'autres.
C'était Gliden, ouais, à l'époque, oui.
Oui, voilà, Gliden
qui était partout.
C'est ça. Et moi, j'avais été, je suis pas hyper puritain, mais j'avais été assez choqué, quoi, quand même, du fait qu'on encourage les gens à... Alors, s'il y a des gens qui sont mariés et qui sont en mariage libre, ouvert, machin, très bien, mais on encourageait vraiment les gens en disant « votre conjoint n'en saura rien », machin, moi, ça me paraissait... Et pourtant, je suis pas puritain, mais... Bref, ils se sont fait hacker dans un hack qui est... totalement illégal, soyons clairs, c'est un acte criminel, mais les hackers ont livré les informations qui sont maintenant disponibles au téléchargement pour tout le monde, et on a eu quelques informations qui en sont ressorties. Évidemment, on a eu des gens, comme c'est toujours le cas, quelques personnalités hyper, pour le coup, hyper puritaines, notamment des Américains, qui prêchent pour la fidélité, pas de sexe avant le mariage, machin.
L'équivalent de famille de France, quoi.
Voilà, un petit peu. Voilà. Même pire, enfin, c'est carrément... c'est des gens
qui sont...
C'est
une autre échelle aux États-Unis.
Voilà, c'est une autre échelle. Et qui se sont retrouvés avec des profils sur le truc, genre le profil qui correspond à tel jour, il était à tel endroit, c'est sa carte bleue et tout. Et puis tout à coup, il dit « Ah, mais non, mais c'est bien sûr pas moi, on essaye de salir mon nom, machin. » Ouais, ok, super. Alors, évidemment, je suis sûr qu'il y aura des cas où il y aura des profils qui auront été créés avec le nom de quelqu'un d'autre, ou etc. Mais enfin, vraiment, il faut être tordu pour se dire « Je vais créer un truc sur ce site pour le jour où ça sera hacké et que donc on aura les infos de telle autre personne. » Je pense que les gens qui ont créé avec un faux nom, je veux bien le croire, mais bon, on risque d'avoir beaucoup d'excuses de ce genre-là, quoi.
Ce que je trouvais intéressant, c'était la distorsion de communication entre ce qui est réellement dans la base de données et ce que Ashley Madison a annoncé. Et dans un premier temps, Ashley Madison a dit que c'était pas un hack avéré, c'était des données complètement loufoques, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il y avait réellement dans la base. Et puis, il y a des gens qui se sont reconnus dans la base, et puis on a fini par remonter à des gens qui avaient... affirmé s'être effectivement inscrit, donc du coup l'argument ne fonctionnait plus. Et moi, je suis allé jeter un œil dans l'immense base de données parce que ça permettait
pour vérifier si ton nom y était ou pas, soyons clairs.
Non, il y avait aucun risque, mais pour faire quelques statistiques, pour essayer de voir ce qu'on pouvait en tirer, moi ce qui m'intéressait, c'était justement donc le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement dans la base. Et on peut comprendre pourquoi le patron d'Ashley Madison était finalement gêné aux entournures. C'est parce que au final, on se rend compte, par exemple, qu'il y a un tiers des comptes qui ne correspondent à aucune adresse email valide. Ça correspond à des adresses email soit inactives, soit qui n'ont jamais existé. Et donc, sur 36 millions, je crois, de comptes, ça représente quand même un tiers, ça représente une dizaine de millions.
Ouais.
Donc c'est colossal, notamment vis-à-vis des investisseurs d'Ashley Madison, où on leur dit qu'il y a environ un tiers de l'activité qui est fausse, quoi, qui n'est pas comptable.
C'est beaucoup, ouais.
Et l'autre chose, c'était par rapport aux comptes qui doivent être supprimés. En fait, ils avaient fait un système qui coûtait $19. C'était le prix pour pouvoir avoir l'assurance que son compte était supprimé de la base de données. Et en fait, lorsqu'on regarde la base de données, concrètement, les comptes qui ont payé sont toujours dans la base. Ils ont juste rajouté une petite annotation à la place de l'adresse email, il me semble, où c'est marqué « Pay for delete ». Et c'est tout.
Voilà, ouais. Et ils sont fait donc effectivement beaucoup d'argent comme ça, et c'est, enfin, clairement, c'était géré d'une manière assez honteuse, surtout pour cette histoire. Ensuite, on peut débattre de la morale du site, mais le fait qu'ils disent pour $20 on va supprimer entièrement toutes vos données et qu'ils ne les suppriment pas, enfin, c'est là, pour le coup, ils risquent de se prendre des procès eux. Du coup, donc, et il y avait d'autres trucs marrants. On a vu qu'il y avait une bonne quantité d'adresses email utilisées qui provenaient d'organismes gouvernementaux aux États-Unis et en France. On a plein d'organismes gouvernementaux français, des gens qui utilisaient leur adresse email de leur ministère ou de ce que c'était pour s'inscrire sur Ashley Madison. Bon, encore une fois, il n'y a rien d'illégal. C'est peut-être moralement discutable, mais il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais c'est quand même marrant que des gens se... Et puis, il faut aussi, bien sûr, être très prudent et dire que tout ça peut être... Je plaisantais en disant les gens vont dire « Ah non, c'est pas moi ». Mais oui, en théorie, c'est possible. Il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre ait créé un compte avec votre nom. Il faut voir l'adresse email s'il y a accès, etc. Mais bon, c'est possible. Donc, il ne faut pas non plus commencer une chasse aux sorcières. Et puis, il faut mentionner les motivations du groupe de hackers qui s'appelle Impact Team, qui a dit, qui s'érige en juge moral de ce qui est bien ou pas. Donc, ils ont dit qu'ils avaient ciblé Ashley Madison depuis longtemps, qu'ils avaient téléchargé toutes ces données sur longtemps, parce qu'ils estimaient que Ashley Madison était immoral et que donc il fallait les punir. Donc bon, on en rigole, mais il y a quand même un truc sérieux derrière. Pour avec qui on est d'accord, avec qui on n'est pas d'accord, ça se discute. Mais bon, c'est quand même pas juste, c'est pas juste rigolo, on va dire.
Et je recommande un article du Monde qui date du 20 août. C'était piratage d'Ashley Madison. Qui sont les victimes? Dans cet article, on explique très bien que il y a des gens pour qui ça peut être vraiment dramatique, mais pas forcément pour les raisons auxquelles on peut penser dans un premier temps. C'est qu'on a repéré par exemple qu'il y avait des adresses email en .sa, et les .sa c'est Arabie Saoudite, et en fait ce que disait l'auteur de cet article, c'était que les gens en Arabie Saoudite qui sont dans cette base de données, si l'État, enfin le pouvoir en Arabie Saoudite s'en rend compte, normalement c'est, il me semble, la peine de mort. Donc
C'est clair que pour les femmes, c'est la peine de mort, c'est certain. Pour les hommes, je sais pas, mais j'imagine que ça rigole pas non plus, oui.
Voilà, donc il faut être très prudent, faut voir les conséquences que ça a d'avoir nommément des gens qui peuvent venir, notamment d'Arabie Saoudite.
Bon, continuons avec, revenons un petit peu du côté de Google, avec un décalage sur le projet ARA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que le projet ARA, mais c'est ce téléphone modulaire qui reprenait un petit peu les bases du, je ne sais même plus comment il s'appelait, ce projet Kickstarter de téléphone modulaire, mais bref, ils se sont associés. Et ce projet Kickstarter, moi j'avais été particulièrement énervé en disant que c'était en fait un mensonge, parce que c'était pas possible de faire ça concrètement. Google m'avait un petit peu prouvé le contraire en créant des solutions innovantes hyper intéressantes sur ce type de téléphone modulaire. Mais bon, j'étais intéressé par la théorie, on va dire technique, je restais assez sceptique par rapport à l'implémentation pratique. Et le test devait commencer à Puerto Rico en 2015, et là il a été décalé sans information précise sur la suite. Donc c'est au moins jusqu'à 2016. Qu'est-ce qui va se passer en 2016? Comment est-ce que ça va être implémenté? On ne sait pas. Donc il y a eu un retard. C'est à mon sens, pour moi je vois que ça apporte de l'eau à mon moulin, qui est que au final c'est peut-être pas aussi incroyable et facile à faire et révolutionnaire qu'on ne le pensait. Mais bon, on verra, ça risque d'arriver en 2016 quand même.
Tu es un oiseau de mauvais augure.
Bah écoute, je sais pas, moi je croyais pas trop à ce projet, et je croyais pas trop à Google Glass.
C'était PhoneBlocks, c'est ça que...
PhoneBlocks, tout à fait, voilà. Tout à fait, ouais, PhoneBlocks. Et je croyais pas trop à Google Glass, et les deux, on commence à être à quelques années avant le... Bah, en fait, ce que je disais, c'est que pour ces deux projets, et c'est pareil pour HoloLens, il y a une sorte d'enthousiasme de futurologue qui s'enflamme pour le concept sans penser à la pratique. Et pour moi, il y a des obstacles importants techniques et d'implémentation, des choses toutes bêtes, d'interface utilisateur, d'avantages par rapport à une solution différente, d'implémentation, des soucis économiques auxquels on ne pense pas forcément quand on s'enthousiasme pour ces trucs-là. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, pour Google Glass et pour ce projet-là, bon, il se trouve que ça abonde dans mon sens. Mais...
Ce que je pense, c'est que là, on est dans une mode où on va facilement rajouter, par exemple, un clavier physique sur un téléphone. On va facilement acheter une coque, même qui vaut beaucoup d'argent. On va acheter une recharge, enfin un chargeur qui est intérieur de la coque, etc. Et donc, en merchandising, en produit dérivé, enfin, qui se met à l'extérieur du téléphone. Il y a un marché colossal. Je pense que cette partie-là du marché, ça vient plus de la mode que du véritable truc de fond. Donc, à mon avis, le jour où tous ces gens-là vont arrêter de faire de l'argent avec ça, je pense qu'il va y avoir énormément d'argent réinvesti à l'intérieur d'un système comme PhoneBlocks. C'est-à-dire qu'au lieu de personnaliser avec une coque, on va chercher à personnaliser du hardware à l'intérieur de son téléphone. Moi, ça me paraît pas
aberrant. Je crois que tu prends le problème à l'envers, en fait. Le truc, c'est que les gens qui ajoutent effectivement un clavier ou une... batterie supplémentaire à leur téléphone avec la coque spécialement faite, il y en a très très peu. Alors effectivement, ces gens-là sont des clients intéressés de ce type de truc, mais il y en a trop peu pour que ça représente un marché aussi important que ce qu'ont imaginé les gens qui ont vu PhoneBlox et qui se sont dit « Ah, tous les téléphones vont être comme ça, ça va permettre de réduire les problèmes de recyclage, ça va permettre de conserver son téléphone pendant des années, tu vois, pendant 5 ans ou 10 ans parce qu'on changera les morceaux. » Moi, c'est ça que je pense que ce type d'utilisation ne sont pas possibles. Google a prouvé que techniquement, il était possible de concevoir un téléphone modulaire. Oui, ça effectivement, et j'en étais déjà surpris, mais il n'empêche que est-ce qu'il y a un marché et est-ce que c'est pratique ? Ça, c'est une autre question. C'est comme pour Google Glass. Oui, Google Glass, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une utilisation ? Je ne sais pas. Pareil pour HoloLens, ça a l'air de fonctionner. On n'a pas exactement l'image que veut en donner Microsoft avec ce qu'il nous montre techniquement, mais ça fonctionne. Mais ensuite, est-ce que l'interface utilisateur peut rendre ça pratique à utiliser ? Est-ce qu'il y a tout simplement une utilisation de ce truc-là qui va faire qu'on va se balader autour d'un modèle au-delà de l'utilisation professionnelle ? D'ailleurs, même Satya Nadella a dit « Bon, les gars, vous êtes gentils avec toutes vos histoires de jeux vidéo, etc. Au début, on va s'intéresser au marché professionnel pour des utilisations très spécifiques avec HoloLens. Donc voilà, moi je pointe du doigt simplement cet enthousiasme geek qui est très bien à avoir, mais qui est un enthousiasme qui laisserait penser à certains que ce type de technologie est une solution ultime à tout un tas de problèmes, mais qu'ils ne voient pas, ils ne prennent pas forcément en compte tous les autres facteurs qui sont associés à ce produit. Et souvent, ce sont ces autres facteurs qui font que un produit va réussir ou ne pas réussir. Avoir une bonne idée, c'est très bien, mais des bonnes idées, il y en a tout le temps et partout. Et le vrai travail intervient après. Le 99%, enfin non, 80% du travail, c'est ce qui vient après le fait d'avoir eu la bonne idée. Donc,
je suis d'accord avec tout ça. Je pense quand même que le seul truc qui fera bouger les choses, c'est si le prix devient suffisamment intéressant pour qu'on puisse en faire une utilisation de la même manière qu'on achète une coque.
Oui, non, voilà, mais c'est là que je crois pas, tu vois. C'est à ça que je crois pas, parce que le fait de faire un système tout intégré va forcément réduire le prix par rapport à l'idée de faire le même système en 6 morceaux différents. Donc,
je suis d'accord, mais enfin, si tu achètes bien une webcam que tu mets au-dessus de ton écran, elle va te coûter 50 euros. Donc, je me dis pourquoi la petite webcam que tu vas. Enfin, pourquoi le capteur photo que tu vas mettre dans ton téléphone s'il coûte moins de 100 euros.
Ah, mais bien sûr, mais tu t'imagines pas. Bon, ensuite, on pourrait parler du prix des composants, mais les composants coûtent rien du tout. Enfin, un téléphone, un iPhone entier, ça coûte quoi ? 200, 250 dollars maximum en composants. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas ça qui coûte cher. Les composants, oui, si tu les divises en chaque composant, ça va rien coûter du tout, mais tu vas jamais pouvoir vendre un téléphone ARA complet au consommateur au prix total de ses composants. C'est irréaliste. Donc, bon, bref, allez, on va continuer dans les quelques news qui nous restent à évoquer, avec notamment Google qui a révélé le nom de Android, de la prochaine version d'Android, qui est Android M Marshmallow. Donc des bons petits chamallows dans nos Android, ça va arriver. Et surtout, c'est la version 6.0. Donc c'est une version 6.0 qui est a priori une version majeure. Il y a effectivement des améliorations intéressantes. On se souvient de Google Now On Tap qui permet d'analyser votre écran et le contexte de n'importe quoi pour vous donner des informations qui correspondent à votre demande. Donc dans n'importe quel endroit de votre téléphone, en fait, Google Now va pouvoir vous donner les réponses que vous attendez avant même que vous les attendiez. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a Bing qui a sorti sa mise à jour de Bing pour Android qui fait un petit peu ça, en fait. On peut pas vraiment lui poser de questions, mais il analyse ce qu'il y a sur l'écran et il vous donne des informations sur ce sujet. Donc c'est marrant qu'ils aient sorti ça. Mais voilà, donc Google Android M version 6.0, ça sera Marshmallow. Et enfin, on a eu une petite étude sur Apple Music qui déclarait que 64% des utilisateurs de Apple Music ne l'utilisaient plus. Et que 64% des utilisateurs allaient continuer à l'utiliser, mais qu'il y en avait une énorme partie qui ne l'utilisait déjà plus. À peu près 50% des utilisateurs qui ne l'utilisaient plus. Donc c'est un petit peu bizarre la différence de chiffres, mais Apple est revenu en disant qu'il n'y a que 21% des utilisateurs qui ne l'utilisent plus aujourd'hui, qui ont supprimé leur abonnement en fait. Seulement 21% qui sont allés dire je ne veux pas que le Apple Music continue à être utilisé sur mon téléphone. Donc il y a une sorte de guerre de chiffres qui est très disparate en fonction de la source qu'on regarde. On aura la réponse de toute façon un peu approximative à la fin du mois de septembre, puisque les 3 mois gratuits arrivent à terme à la fin du mois de septembre. On verra un petit peu à ce moment s'il y a beaucoup de gens qui continuent à l'utiliser ou pas, puisque ceux qui ne voudront pas l'utiliser devront se désabonner, quoi. Écoutez, on arrive à la fin de notre épisode. Il y avait quelques mots sur l'iPad Pro, mais de toute façon, on devrait avoir début septembre, le 9 septembre très précisément, une conférence d'Apple qui va annoncer au moins ces nouveaux iPhones et peut-être ces nouveaux iPads. On n'est pas 100% sûr, mais c'est possible. Les iPads risquent d'être décalés à octobre. Il y a des rapports un petit peu différents sur ce sujet. Donc ça sera le 9 septembre, donc on en saura un petit peu plus sur tout ça à ce moment. Voilà pour nos news d'aujourd'hui. On arrive donc, comme je le disais, à la fin de cet épisode. J'aimerais donner à Guillaume l'occasion de nous dire où on peut le retrouver si les auditeurs veulent en apprendre un petit peu plus sur ce qu'il fait.
Alors, on peut me retrouver sur Twitter, et puis le pseudo, c'est Statosphère.
Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Statosphère ?
Statosphère, c'est un site consacré aux statistiques du web, c'est statosphere.fr, mais les gens y vont maintenant, ils vont trouver une page vide, mais je les invite à venir dans une semaine ou deux parce que je suis en train de préparer un nouveau site avec des nouveaux articles.
Magnifique. Bon, ça arrive, allez, pour la rentrée début septembre, on va dire.
Voilà, oui, après les vacances, quoi, après mon voyage.
Très bien, très bien. Bon, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Facebook, facebook.com/notepatrick. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, twitter.com/notepatrick. Et puis surtout, vous pouvez retrouver l'émission et d'autres émissions sur le site frenchspin.fr. Vous pourrez retrouver notamment le rendez-vous jeu, qui est une émission où on couvre l'actualité du jeu vidéo un petit peu sur le même ton. On rigole peut-être un petit peu plus que dans le rendez-vous tech, mais c'est un petit peu sur le même ton, toujours analyse, résumé, facile d'approche. Et on a eu d'ailleurs le dernier épisode, c'était avec Julien Pétrons du site Judge Heap, que les amateurs de Blizzard connaîtront, et Aymeric Lallet, qui est un ami, qui est le rédacteur en chef de IGN France. Et on a couvert tout le reste de la Gamescom, avec notamment l'annonce de la nouvelle extension de World of Warcraft et tout plein d'autres choses. On a résumé tout ça, on a couvert tout ça, toujours dans la bonne humeur. Donc si c'est le genre de news qui vous intéresse, je vous encourage à aller écouter ça. C'est le rendez-vous jeu et c'est disponible sur frenchspin.fr et en podcast bien sûr aussi. J'aimerais également vous remercier encore une fois de soutenir l'émission. Vous le savez, c'est sur patreon.com/rdvtech. C'est l'émission qui est pardon, pas l'émission, mais c'est disponible, les liens sont disponibles dans les commentaires de l'émission et un petit peu partout. Si vous estimez que l'émission est agréable à écouter, que vous vous dites « Oh bah si elle disparaissait, ça m'emmerderait quand même un petit peu, j'aime bien écouter le Rendez-vous Tech », elle va pas disparaître, hein, mais si vous vous dites ça, eh bah, peut-être considérez le fait de participer sur Patreon, un petit dollar, deux petits dollars par épisode. Ça aide énormément et puis ça me fait plaisir, et c'est le fait de se dire vous êtes actif et vous pouvez être fier de cette émission qui est produite aussi grâce à vous. Bien sûr, si vous pouvez pas, si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, mais si vous y pensez, et ben c'est sur patreon.com/rdvtech. Allez, on se retrouve dans une quinzaine de jours avec un nouvel épisode, et du coup je me dis comme c'est le quelques jours avant le rendez-vous tech, le prochain rendez-vous tech, est-ce qu'on va décaler l'enregistrement pour avoir les informations de l'annonce Apple ou pas? C'est deux jours avant quand même. Peut-être qu'on fera ça dans un upload spécial pour les gens qui aiment cette émission. On verra. Dans tous les cas, dans à peu près 15 jours, vous aurez votre nouvelle émission du Rendez-vous Tech. Vous serez revenus et en plein travail. Ça sera la rentrée. Donc, on aura bien besoin de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. Ça sera dans 15 jours pour le Rendez-vous Tech. Ciao à tous. À très vite.
À bientôt.